Non, j'ai pas besoin de pied. Merci. Alors, je vais changer un peu la formule de politesse. Je ne vais pas dire bonjour à toutes et à tous. Je vais dire soldats et soldats de Jésus-Christ, bonjour. Y a-t-il des soldats de Jésus dans la salle ?
Amen.
C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de ce terme. Mais d'ailleurs, l'apôtre Paul, il a utilisé cette expression, ce terme, auprès de Timothée, qui lui a dit « Sois un bon soldat de Jésus-Christ ». Alors, vous savez que pour toute personne qui, physique qui veut s'engager pour une nation, dans un service militaire, quand il s'engage, il arrive avec un pactage, une nouvelle pièce d'identité avec son nom, son grade, sa fonction. Et donc, il s'engage et de la même manière, donc il reçoit une formation théorique et pratique, maniement des armes. Pour nous, le combat, il n'est pas physique, mais spirituel. Et de la même manière, nous faisons partie du royaume de Dieu et donc de son armée. Et comme arme, nous avons la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit et la prière. Et si Dieu nous a donné des armes, ça veut dire qu'en face, il y a un adversaire. Et cet adversaire, c'est le diable qui fait partie, lui, du royaume des ténèbres. Et notre combat est donc spirituel. Il est écrit qu'en Éphésiens 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités spirituelles dans les lieux célestes, contre les esprits méchants. Alors on peut se dire, bon, moi je ne m'occupe pas de l'ennemi, je l'ignore, un peu comme la politique d'autruche, on met la tête dans le sable, mais Satan, lui, ne nous ignore pas. Donc, c'est le thème que je voudrais aborder avec vous ce matin, être un soldat selon le cœur de Dieu. Nous allons voir pourquoi et comment. Il est important d'avoir cet esprit de combattant. Je vous propose une lecture dans le livre des Juges, dans l'Ancien Testament, au chapitre 3, versets 12 à 30. Je lis dans la version français courant. C'est à propos de Éhoud. C'est un juge qui est peut-être peu connu. On pense souvent à Samson, Déborah ou d'autres. Mais vous allez voir, c'est très intéressant. À partir du verset 12. Juges chapitre 3. Les Israélites firent de nouveau ce qui déplaît au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dressa contre eux Églon, roi de Moab. Églon s'allia aux Ammonites et aux Amalécites pour aller attaquer Israël. Ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Les Israélites furent soumis au roi Églon pendant 18 ans. Ils appelèrent alors le Seigneur au secours, et celui-ci leur envoya un libérateur, Éhoud, un homme gaucher, qui était fils de Guéra, de la tribu de Benjamin. Les Israélites envoyèrent Éhoud présenter des cadeaux à Églon, roi de Moab. Éhoud se fabriqua une épée à deux tranchants, d'une coudée qui correspond à 50 cm environ, et la mit sous ses vêtements, contre sa cuisse droite. Puis il alla offrir les cadeaux à Églon, qui était un homme très gros. Lorsqu'il eut donné, il partit avec les hommes qui les avaient portés. Arrivé aux idoles de pierre, qui se trouvent près de Gilgal, Éhoud retourna sur ses pas et vint dire au roi, « J'ai un message secret pour sa majesté le roi. » Le roi ordonna à ses serviteurs de le laisser tranquille, et tous sortirent. Il était alors assis dans la chambre fraîche qui lui était réservée sur la terrasse. Éhoud s'avança vers lui et déclara « Le message que j'ai pour toi vient de Dieu. » Le roi se leva de son siège, de sa main gauche, Ehud saisit l'épée qui le portait sur la cuisse droite et la plongea dans le ventre du roi. Elle s'y enfonça tout entière, y compris la poignée, et la graisse se referma sur la lame, car Ehud ne retira pas l'arme. Ensuite, Ehud sortit par derrière, après avoir fermé les portes de la chambre et tourné la clé. Quand il fut parti, les serviteurs arrivèrent et constatèrent que les portes étaient fermées. Ils pensèrent que le roi était en train de satisfaire un besoin naturel à l'intérieur. Ils attendirent jusqu'à en perdre patience, mais le roi n'ouvrait toujours pas les portes de l'appartement. Alors ils prirent la clé, ouvrirent eux-mêmes et découvrirent leur maître étendu par terre mort. Pendant qu'ils perdaient du temps, Ehud s'était enfui. Il dépassa les idoles de pierre et se mit en sûreté à Séra. Après être arrivé à cet endroit, il sonna de la trompette dans la région montagneuse d'Éphraïm pour rassembler les Israélites. Puis il se mit à leur tête et descendirent des collines. « Suivez-moi, leur dit-il, car le Seigneur vous a livré aux ennemis moabites. » Ils suivirent Ehud, prirent aux Moabites les gués du Jourdain et ne laissèrent personne traverser la rivière. Ce jour-là, ils tuèrent environ 10 000 Moabites, tous des hommes robustes et courageux. Il n'y eut aucun survivant. À partir de ce moment, les Moabites durent se soumettre aux Israélites et le pays connut le repos que procure la paix pendant 80 ans. 80 ans. Alors pourquoi cette période bien sombre du peuple d'Israël? D'une manière globale, Israël, pendant 3 siècles, eh bien, ils sont marqués, ce temps-là est marqué par le rejet de l'autorité divine. C'est le thème essentiel du livre des Juges. Donc la désobéissance, elle est d'abord sur le plan politique, le refus de conquérir la terre promise, et sur le plan religieux, c'est l'adoration des idoles locales. Et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Juges 17, verset 6. On voit que chaque génération, sur le plan historique, s'écarte de l'Éternel. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des cycles qui se répètent tout au long du livre des Juges. Le premier cycle, c'est celui de la révolte. Ensuite, de la ruine, la repentance, la rédemption et le repos. Au chapitre 3, versets 12 à 14, c'est le cycle de la révolte suivi de la ruine. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel et l'endurcissement d'Israël amène une oppression de 18 ans avant de se tourner vers l'Éternel. La question qu'on peut se poser, et on n'a pas à leur jeter la pierre, combien de temps avons-nous mis pour nous tourner vers l'Éternel, pour plier le genou devant Dieu, pour le reconnaître comme Seigneur? Peut-être que c'est 10 ans, nous avons mis 10 ans, moi il a fallu que ce soit 24 ans pour que je plie le genou. Dieu nous dit que nous étions tous errants par nature, des enfants de colère, rebelles, Éphésiens 2. Eh bien, les conséquences, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. L'Éternel et le peuple hébreu, si nous voyons qu'il est rejeté, qu'ils ont rejeté l'Éternel comme maître, Dieu reste souverain. Et chaque fois que Israël se révolte, l'Éternel intervient pour châtier son peuple. Et chaque fois qu'Israël se repent, Dieu pardonne et le secourt. Le deuxième cycle, c'est la repentance et la rédemption. Au chapitre 2, versets 15 et 16. Ils furent dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges afin qu'il les délivre de la main de ceux qui les pillaient. Donc on voit que le salut, il est formé de 2 éléments. La repentance au verset 15 et au verset 16, la rédemption divine. Les juges, ils ne sont pas autoproclamés, hein? Ils ont été appelés par Dieu, mais souvent à la mort du juge, le peuple se corrompait de plus en plus. Il est dit qu'ils se corrompaient davantage que leur père. Chapitre 2, verset 19. Et si les juges ont pu sauver temporairement le peuple de leurs ennemis, ils n'ont pas pu enrayer le mal d'une manière fondamentale. Un autre sauveur sera nécessaire pour s'attaquer à la racine du péché. C'est l'étape, c'était dans le plan de Dieu, bien sûr, c'est Yeshua, notre Messie, Jésus-Christ, qui devait venir. Dieu nous dit que si nous nous détournons de nos péchés pour nous tourner vers Dieu, si nous croyons au sacrifice de Jésus mort pour nous, dans un acte d'obéissance, alors nous recevrons le pardon de nos péchés. Nous voyons que le courage aussi est la qualité première de ce juge. Il pénètre seul au centre de la forteresse ennemie pour abattre le tyran. Rien ne l'arrête, ni le nombre de soldats moabites, ni le manque total de soutien extérieur, puisque son armée, il a laissé à l'arrière. Il s'oublie lui-même, il ne pense qu'à délivrer son peuple. Alors, il n'est pas seulement courageux, mais il a du discernement. Il a frappé l'ennemi, et on sait que c'est la tête qu'on doit couper. Donc, il a frappé le chef Aiglon. Et pour lui, la mort d'Aiglon est fondamentale. Pour frapper l'ennemi, par surprise, le juge y confectionne une arme appropriée, donc une épée. Il est dit qu'il la place sur la jambe droite. Pourquoi sur la jambe droite et pas gauche? D'abord, elle n'a pas de garde. Elle a une épée, elle a une garde. Et là, c'est une lame, seulement une lame, qu'il place sous ses vêtements pour mieux la dissimuler. Donc, il met son arme sur sa cuisse droite. Le texte dit du juge qu'il ne se servait pas de la main droite. Mais lorsqu'on étudie un peu mieux, au chapitre 3, verset 15, la tournure revient au chapitre 20, verset 16, où voyons 700 hommes d'élite de la tribu de Benjamin qui semblent plus ambidextres que gauchers, c'est-à-dire ils se servent des deux mains, gauche et droite. Même en 1 Chronique 12, verset 2, des archers lancent des pierres de la main droite et de la main gauche. Ils font tous partie de la tribu de Benjamin. Comment utilisons-nous notre épée, la parole de Dieu? L'épée de l'esprit, avec aussi habileté. Donc je fais une parenthèse et j'encourage tous ceux qui aiment la parole de Dieu, qui veulent étudier la parole. On n'est pas tous appelés à faire des facultés de théologie, des écoles bibliques. Maintenant, vous savez que vous avez des formations en ligne. Et ce n'est pas le fait simplement d'acquérir des connaissances, avoir un diplôme à la clé, mais parce que la parole de Dieu, par expérience, si on la laisse agir dans notre cœur, elle va nous toucher, nous transformer. Elle va nous restaurer, nous l'avons chanté. Amen. Elle guérit. Alors, au verset 19 et 26, Ehud, il passe par les carrières. Qu'est-ce que ces carrières? Alors, c'est un amoncellement de pierres. C'est, vous rappelez, Israël avait érigé des pierres. Chaque chef des tribus devait prendre une pierre dans le Jourdain, faire un amoncellement. Un peu comme un mémorial. Eh bien, en passant par cet endroit, Ehud veut rappeler l'opprobre égyptien qui avait été ôté. Gilgal, en hébreu, veut dire roulé, ôté. Et c'est une nouvelle sortie de l'esclavage. Alors, ce n'est pas seulement Ehud, un guerrier qui joue les oraux, mais Ehud connaissait la stratégie de l'ennemi. Et c'est pour cela qu'il a offert un présent à Aiglon, parce qu'il savait qu'il était cupide. Et il a attendu le moment propice pour le tuer. Mais il connaissait aussi les desseins de Dieu. Il aimait Dieu, il aimait le peuple. C'est pour ça qu'il a suivi les instructions divines qui spécifiaient qu'en terre promise, aucun païen ne devait survivre. Alors vous imaginez cette épée là, sur la jambe droite, et qui dit à son roi, au roi Aiglon, j'ai un présent pour toi. Et au moment où il se lève, il enfonce cette épée dans le ventre. Quel courage! Pour nous chrétiens, notre combat n'est pas charnel, mais comme je l'ai dit, spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités dans les lieux célestes, contre les esprits méchants, contre le diable et son armée de despotes et démons, qui veut tout faire pour nous diviser, nous détruire, nous déchirer. Il veut faire avorter les plans de Dieu, nous enlever les bénédictions. Je crois que nous devons passer de la méthode défensive à offensive dans le combat spirituel, dans la prière. Paul disait qu'il n'ignorait pas les desseins de Satan. C'est-à-dire que dans la prière, il recevait la stratégie de Dieu. Il disait, là, attention, tu ne vas pas là ou tu fais ça. Mais pour cela, ça demande... Souvent quand on prie, on intercède, et c'est super, il faut des intercesseurs, mais peut-être qu'on ne prend pas assez du temps dans l'écoute de Dieu. Écoutez Dieu. Alors vous allez me dire, mais il y a la parole. Oui, là, il y a la parole et il y a le Saint-Esprit. Il nous a donné la parole et le Saint-Esprit. Écoutez Dieu dans la prière, faire silence autour de nous. Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire dans cette situation? Qu'est-ce que tu veux révéler? Où je dois aller? Ne pas écouter nos sentiments, mais vraiment écouter la voix du Saint-Esprit. Alors ça peut être l'objet de notre sujet, ça. Écouter la voix de Dieu. Et dans le combat spirituel, nous ne voyons pas forcément de suite les effets, les résultats. C'est pour cela que nous devons garder les yeux ouverts et les oreilles ouvertes pour voir ce qui se passe autour de nous. Il y a des batailles qui se gagnent de suite. Puis d'autres fois, ça demande plusieurs semaines, voire des années. Mais nous devons persévérer. Alors j'aime bien cette citation que vous connaissez peut-être, d'un homme politique anglais, Winston Churchill, qui a dit, en plus il a connu la guerre mondiale, « Agissez comme s'il était impossible d'échouer ». Ben, quand on lit les psaumes aussi, David. Alors, qui a dit avec Dieu, je franchis des murailles? Grâce à toi, mon Dieu, je peux franchir un rempart. Les jeunes? Ou moins jeunes? Oui, tu es courageux, Josué, oui. Mais pas que. Là, en l'occurrence, c'est David. C'est dans les psaumes. C'est dans un psaume. Un homme de foi aussi, malgré il a subi aussi pas mal de problèmes, Saül poursuivait, il se cachait, mais Dieu a honoré sa foi. Alors nous voyons notre héros, 27 à 29, fut arrivé et sonna de la trompette dans la montagne et il se mit à leur tête. Il leur dit, suivez-moi car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. Ils descendirent après lui, s'emparèrent des guets du Jourdain vis-à-vis de Moab et ne laissèrent passer personne. Ils bâtirent dans ce temps-là environ 10 000 hommes de Moab, tous robustes, tous vaillants, et pas un échappa. Les trompettes retentissent comme pour la chute de Jéricho. Vous rappelez, il a sonné une trompette aussi. Et donc le succès de Ehud a complètement galvanisé la troupe, puisqu'ils l'ont suivi et ils ont pourchassé les Moabites. Que signifient pour nous ces pierres? On peut les comparaître à toutes ces bénédictions que Dieu nous a faites dans nos vies. Et lorsque nous passons dans des difficultés ou des combats, eh bien le souvenir de ces bénédictions nous encouragera à aller plus loin, à persévérer et à triompher. Donc ne regardons pas à nos faiblesses, à ce qui nous manque, les géants qui sont devant nous, mais regardons à notre Sauveur, le Christ, qui veut nous donner la victoire. Amen. Nous ne devons pas craindre l'ennemi, parce qu'à la croix, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités en éclouant la croix. Et il a remis son autorité spirituelle à l'Église. Pas seulement à une ou deux personnes, mais à chaque disciple. Jésus est au-dessus de toute domination, de toute autorité. Il règne, il est souverain et il est le roi des rois. Mais c'est à nous de nous saisir de cette autorité. Parce que nous sommes, pourquoi ? Parce que nous sommes des fils et des filles du roi. Amen. Et cette autorité, elle n'est pas basée sur nos compétences, sur notre ancienneté dans l'Église, mais seulement sur l'œuvre de Jésus à la croix. Le combat spirituel n'est pas une fin en soi, mais c'est d'accomplir les plans de Dieu pour notre vie, pour notre Église, pour notre ville, notre nation. Alors nous pouvons rentrer dans le lard de l'ennemi et lui reprendre ce qui nous a volé, toutes ces bénédictions que Dieu veut nous donner. Ce n'est pas de la présomption, mais c'est obéir à Dieu. Et même si nous sommes blessés dans le combat, ce n'est pas pour autant que nous devons avoir peur. La foi, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, c'est une totale confiance en Dieu, basé sur sa parole et ses promesses. Alors que la présomption, c'est une ambition personnelle. Je veux faire ça. Derrière certaines formes de religiosité, il peut cacher une ambition personnelle et de l'orgueil. Le combat spirituel, je terminerai, c'est avant tout un combat d'amour. Un combat d'amour, les deux ingrédients, c'est l'humilité et la compassion. Amen. L'humilité. Reconnaître que sans Jésus, nous ne pouvons rien. Et par sa grâce, je puis tout par celui qui me fortifie et qui nous a donné, il a délégué à l'Église cette autorité pour que nous reconnaissions humblement par amour pour Dieu et par amour pour nos frères et sœurs, pour l'Église. Cette compassion, il faut la demander si vraiment on voit qu'on est sec, qu'on prie mais qu'on tourne en rond. Seigneur, révèle-moi ta pensée. Donne-moi cette compassion qui me manque pour l'Église, pour mon prochain. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop... J'en ai pas trop dit là en 10 minutes, un quart d'heure, mais c'est ce que j'avais sur le cœur pour l'Église de la Clé des Champs. Et avec Dieu, nous ferons. Amen. Alors, il y a un chant qui dit « Assaillons les villes, franchissons les murailles ». Qui c'est qui le connaît? Quoi? Qui c'est qui le connaît? C'est un chant qu'on chantait beaucoup dans les années 90. C'est dans J'aime, hein. J'aime l'un ou deux. Mais voilà, on va essayer de le chanter. Et merci pour les musiciens qui nous soutiennent. Merci à Paola, Rupert et Annie.